Société, religion et charité au XIXe siècle. Colloque international organisé à l'occasion de la béatification de l'abbé Louis-Édouard Sestac 1801-1868 par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et la ville d'Anglette. 15, 16 et 17 octobre 2015 à Notre-Dame du Refuge, Anglette. Les congrégations religieuses au XIXe siècle et leur essor, voici l'intervention de Nicolas Champ, maître de conférence de l'Université Bordeaux-Montaigne, une intervention intitulée « Les Servantes de Marie, une congrégation enseignante majeure du sud-ouest aquitain au XIXe siècle ». Nicolas Champ, maître de conférence de l'Université Bordeaux-Montaigne.
Donc l'objectif de ce travail est de resituer un petit peu l'histoire des Servantes de Marie en tant que congrégation enseignante au cours du XIXe siècle et de la resituer, l'histoire de cette congrégation, dans le paysage scolaire du sud-ouest aquitain entendu au sens large. Vous verrez qu'il faut avoir une définition large. Et de donner quelques éléments qui guident la logique de son expansion, de son implantation dans le sud-ouest aquitain et ailleurs, dans le cadre du territoire français. Donc, en fait, cet aspect, ce travail scolaire ne représente que l'un des aspects de l'histoire des Servantes de Marie, mais c'est celui sur lequel je vais m'attarder. Le cadre chronologique que je vais vous proposer, vous voyez, 19e siècle, ça sera en fait considérablement plus réduit du fait de l'histoire même de la congrégation, mais il faudra resituer un petit peu justement cette dynamique enseignante de la congrégation des Servantes de Marie par rapport aux autres congrégations présentes dans le sud-ouest. Et la date finale, en fait, sera celle de l'application des lois de 1901-1904, déjà étudiée par sœur Jacqueline Bordenave dans le cas du Pays Basque pour l'application de ces mesures pour les Servantes de Marie. Donc je n'évoquerai pas directement les problèmes auxquels fait face la congrégation face à ces lois de 1901-1904, mais je verrai donc l'essentiel de l'histoire antérieure. Donc, quelles sont les questions que je vais poser ici? C'est la place dans le paysage congréganiste régional et diocésain. Quelle est la dynamique de développement de la congrégation en tant que congrégation enseignante dans la seconde moitié du XIXe siècle? Et de manière assez impressionniste, les facteurs d'implantation de ces maisons d'école tenues par les Servantes de Marie dans la seconde moitié du XIXe siècle. Donc, premier point, la place singulière tenue dans le paysage des congrégations éducatives aquitaines. De fait, ça a déjà été rappelé, l'histoire des Servantes de Marie ne s'inscrit pas dans un paysage régional vierge de toute congrégation religieuse. Il y en avait avant la Révolution française et après la restauration religieuse, si j'ose dire, entreprise dans le cas du Concordat, même si les congrégations ne sont pas concernées par le système concordataire, renaissent les congrégations enseignantes, enfin les congrégations tout court et les congrégations enseignantes en particulier dans la région. On retrouve notamment un certain nombre de maisons isolées, les Ursulines dispersées au moment de la Révolution et qui se rétablissent à Périgueux, Pau, en Gironde ou même dans les Landes. Mais en fait, ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'il va y avoir une grande phase de création de congrégations enseignantes à supérieur général dans un vaste sud-ouest aquitain au cours du XIXe siècle. Donc ces congrégations à supérieur général, ça sera sûrement rappelé par le professeur Christian Sorel après, sont celles qui peuvent diriger légalement qui peuvent disposer de plusieurs maisons sous le même nom, en fait. Quelles sont celles qu'on retrouve dans la région? Vous voyez dans l'ordre chronologique, certaines sont plus ou moins importantes. Celles qui vont jouer le plus grand rôle, si j'ose dire, ou le plus de visibilité dans la région, c'est par exemple à Bordeaux, les sœurs de la doctrine chrétienne qui naissent à la toute fin du Premier Empire et se prennent leur essor sous la Restauration. C'est également de manière avec un public plus plus relevé, si j'ose dire, les Filles de Marie à Agen, fondées par le père Chaminade, qu'on a déjà évoqué, mais qui, elles, proposent des pensionnats plutôt destinés aux jeunes filles de la bourgeoisie. Avec un public comparable aux servantes de Marie, si j'ose dire, vous avez l'Immaculée Conception, fondée par le père Noailles, cette fois-ci, qui a déjà été évoquée, qui est l'une des branches de la Sainte Famille. Et autre congrégation qui est appelée à avoir un riche avenir, notamment dans la région, enfin dans le diocèse de Bayonne, ça a déjà été évoqué là aussi, les Filles de la Croix, vous voyez, elles naissent dans le diocèse de Poitiers au tout début du XIXe siècle, mais elles vont rapidement essaimer ailleurs, et notamment dans les Basses-Pyrénées. Et vous voyez où se situent un petit peu les servantes de Marie dans cette chronologie-là. Elles apparaissent en tant que congrégation, mais pas encore en tant que congrégation enseignante, sous la monarchie de Juillet, un moment qui se caractérise par une multiplication de congrégations dans le sud-ouest. Et on peut prendre pour exemple une congrégation qui connaît un essor comparable à celle des servantes de Marie, les sœurs de Saint-Joseph de Bordeaux, enfin d'abord à Barsac, et ensuite à Bordeaux, qui viennent du diocèse de Lyon et qui connaît un essor tout à fait, enfin un développement tout à fait comparable aux servantes de Marie. C'est-à-dire lors de la Révolution de 1848, où on n'aviez que 12 maisons de ces sœurs de Saint-Joseph présentes dans le diocèse de Bordeaux. Vous en avez 24 au décès de la fondatrice, en 1853, et 56 lors de la proclamation de la Troisième République. Donc vous voyez un essor régulier, facilité notamment par la loi Falloux, qui va considérablement accélérer la croissance de cette présence congréganiste. Et en fait, c'est cette loi Falloux plus la transformation du statut des servantes de Marie, reconnue légalement en tant que congrégation à supérieur général en 1852, qui vont changer la donne au niveau du diocèse de Bayonne. Quelle est la situation des congrégations dans le diocèse de Bayonne? Vous voyez, juste avant la reconnaissance légale, si j'ose dire, des servantes de Marie, les congrégations qui sont ici reconnues, si j'ose dire, par l'autorité diocésaine dans le cas de son ordo, donc de l'annuaire diocésain. Vous voyez certaines congrégations qui n'ont aucune vocation enseignante, comme les carmélites, congrégations contemplatives, les filles de la charité, qui peuvent avoir à la marge une fonction enseignante, mais ce n'est pas le cas ici. Et celles qui sont présentes avec une véritable vocation enseignante, c'est les dominicaines et les ursulines, mais qui visent un public, notamment pour les dominicaines, plus bourgeois que le public des servantes de Marie, et surtout les grandes concurrentes, si j'ose dire, à l'époque, les filles de la Croix. Vous voyez déjà, dès 1851, 49 écoles recensées pour les filles de la Croix. Voilà la situation avant la naissance, si j'ose dire, de la congrégation des servantes de Marie en tant que congrégation enseignante. Et la première année où elles sont reconnues comme institution enseignante, elles apparaissent de manière encore très modeste. Et vous voyez, les filles de la Croix, en un an, puisqu'il y a un an de décalage, ont déjà 10 écoles de plus, ce qui est quand même une croissance énorme. Et les servantes de Marie apparaissent seulement en 1852 avec 8 écoles dans le diocèse de Bayonne. Donc vous voyez un petit peu la situation, et cette rivalité entre les deux congrégations, ou cette concurrence-émulation, va rester une réalité durable dans le diocèse de Bayonne. Il suffit de regarder les chiffres à l'échelle, toujours à partir de l'ordo, donc c'est pas tout à fait forcément les mêmes chiffres que ceux retenus dans les histoires des congrégations, parce que certains établissements mettent du temps à apparaître sur les ordos. Donc vous voyez, il y a toujours un différentiel très fort entre les deux principales congrégations du diocèse, une réduction quand même progressive de l'écart, mais globalement, toujours, c'est à peu près une pour deux écoles, au moins, comme rapport d'inégalité entre les deux congrégations. En effet, à la veille des lois anticongréganistes en 1899, l'écart entre les deux congrégations, c'est 113 écoles pour les filles de la Croix, c'est 51 pour les servantes de Marie. Quels sont les rapports entre les deux congrégations? Parfois, on peut se rendre compte que celles apparaissent, du point de vue du curé, du desservant, comme des alternatives également valables pour offrir un enseignement congréganiste, un enseignement aux petites filles. Par exemple, à Laontan, je suis pas sûr de la prononciation, donc dans les Basses-Pyrénées, il y a d'abord une direction des servantes de Marie, et ensuite, pour des raisons diverses, le curé décide de ne plus se passer justement des servantes de Marie et appelle à la place les filles de la croix. Donc ce type de changement marche souvent dans les deux sens. Inversement, pour l'une des premières maisons fondées par les servantes de Marie, donc celle de Mastac, donc là vous voyez la première qui apparaît dans la liste. Pour la maison de Mastac, la bienfaitrice à l'origine de la fondation, Mademoiselle de Meillan, fait appel aux servantes de Marie parce qu'elles apparaissent justement moins austères que les filles de la croix. Donc une concurrence ou une complémentarité entre les deux congrégations. Si on regarde maintenant un petit peu les rythmes de la croissance de cette congrégation, il y a plusieurs éléments à relever. On avance un petit peu sur les contrastes de cette présence congréganiste. Si on regarde simplement le rythme de création des écoles de servantes de Marie, vous voyez qu'effectivement le temps du fondateur, donc pour mémoire le père Sestac décède en 1868, c'est le temps d'un vaste mouvement de création. Donc on rattache toujours ça à la personnalité du fondateur, c'est vrai, mais il faut quand même avoir également à l'esprit que c'est le contexte le plus favorable sur un plan politique. La conjoncture politique est très favorable à l'enseignement congréganiste, ce qui explique largement cette expansion et le fait que notamment, même l'année juste après la disparition du fondateur, donc 1869, vous voyez, il y a encore 13 écoles qui sont fondées, donc c'est toujours des années fastes, si j'ose dire, pour la congrégation. Le mouvement se réduit considérablement pour la suite, mais on voit que les périodes où le régime est encore favorable, notamment ce qu'on appelle l'ordre moral au début de la Troisième République, il y a toujours une petite dynamique de création. Donc au total, vous avez près de 200 établissements scolaires qui sont créés, dirigés par les servantes de Marie au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Même si on compte justement les derniers établissements nés, la durée moyenne d'existence des établissements avant l'interruption forcée de 1902-1903, c'est de l'ordre d'une trentaine d'années. Autrement dit, la plupart des créations restent stables, ne disparaissent pas. Enfin, il y en a très peu qui disparaissent à brève échéance, au bout de 2-3 ans d'existence. Si on regarde donc le nombre d'établissements présents en même temps, donc tous les établissements dirigés par les servantes de Marie, vous voyez que le maximum est atteint juste avant les lois Ferry, donc les lois de 1881, 82, et surtout la loi de 1886 qui invite à la laïcisation du personnel enseignant des écoles publiques. Donc vous voyez cette dynamique qui reste forte jusqu'aux années 1880, et même alors que le contexte politique est moins favorable, certes il y a une diminution du nombre des établissements dirigés par la congrégation, mais vous voyez on reste à un nombre supérieur au nombre de maisons créées par le fondateur ou à l'initiative du fondateur, le père Sestac. Donc une dynamique réelle. Quels sont les espaces privilégiés? C'est avant tout, c'est une très grosse différence par rapport par exemple aux filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, mais c'est tout à fait comparable avec les filles de la Croix, c'est avant tout des maisons rurales qui sont privilégiées, c'est le monde des campagnes qu'il s'agit d'évangéliser, de catéchiser et d'éduquer. Si on regarde la répartition géographique de ces fondations, on se rend compte qu'il y a un très fort déséquilibre. Vous le voyez ici très nettement. Il y a un très fort ancrage dans l'ancien diocèse de Bayonne, si j'ose dire, celui qui a existé 1801-1822, c'est-à-dire celui qui couvrait à la fois les Landes, les Basses-Pyrénées, pas les Hautes-Pyrénées qui sont un peu exclus du lot, mais voilà, un très fort ancrage dans la partie la plus méridionale de l'Aquitaine, mais également avec un ancrage un peu ailleurs. Donc on va relever quelques cas pour essayer de comprendre comment ça a pu fonctionner. Par exemple, dans le Pas-de-Calais, les 21 écoles créées sont majoritairement libres, donc dans le diocèse d'Arras, donc ce qui représente 11% des écoles créées. Mais même si le nombre est significatif comme cela, en fait, c'est une congrégation tout à fait secondaire dans le diocèse d'Arras, parce que l'évêque d'Arras privilégie plutôt des congrégations à supérieur général diocésaine. Donc elles sont arrivées là à un moment donné parce qu'il y avait un manque, si j'ose dire, encore de personnel enseignant dans le monde congréganiste du diocèse, mais ça reste marginal. Autre cas qui est bien documenté, c'est le cas du diocèse de Belley, qui avait fait l'objet d'une thèse il y a quelques années, enfin au début des années 90, où une douzaine d'écoles sont créées. Donc diocèse de Belley, c'est quand même très loin, il y avait des viviers congréganistes quand même extrêmement importants dans le diocèse ou dans les régions périphériques. Donc pourquoi le diocèse de Belley? Tout simplement parce que l'évêque de Belley, monseigneur de Langalerie, est originaire de Sainte-Foy-la-Grande et avait séjourné dans sa jeunesse à Saint-Barthélemy de Seignanx, donc à une vingtaine de kilomètres d'ici. Donc il connaissait personnellement, si j'ose dire, l'œuvre du père Sestac, et c'est à ce titre que des maisons dirigées par les servantes de Marie apparaissent dans le diocèse de Belley. En effet, il arrive, monseigneur de Langalerie arrive à Belley en 1859. La première école est créée la même année, et la dernière des 12 écoles, créées dans le diocèse de Belley, elle date de 1867, et il quitte Belley pour Auch en 1871, et après 1871, il n'y a plus aucune création d'école dans le diocèse de Belley, enfin d'école dirigée par les servantes de Marie. Donc là, on voit très bien le rôle de l'évêque. Donc là, en fait, c'est tout à fait ce genre de stratégie de développement. C'est quelque chose d'assez courant au XIXe siècle. J'ai pu trouver d'autres cas de figure où des évêques amènent avec eux, si j'ose dire, des religieuses de leur diocèse ou de leur région d'origine. Dans le diocèse de La Rochelle, là aussi, qui était l'objet de ma thèse, j'avais trouvé de manière un peu surprenante une dizaine de maisons des sœurs du Saint-Sacrement d'Autun. Donc Autun, La Rochelle, c'est quand même pas tout à fait à côté. L'explication était qu'il y avait eu deux évêques de La Rochelle qui venaient de ce diocèse, donc ils avaient amené, si j'ose dire, connaissaient l'œuvre des religieuses, donc ils ont fait appel à elles quand il y avait besoin de religieuses. De manière plus ponctuelle, il peut y avoir aussi le rôle des réseaux personnels pour justifier le choix de ces congrès, des servantes de Marie dans des parties un peu périphériques. La première maison fondée dans le diocèse de Toulouse, à Frouzin, je ne sais pas trop comment ça se prononce, le curé de la paroisse était en fait un ami du père Sestac, donc là aussi c'est le lien interpersonnel qui a joué pour expliquer la venue de cette congrégation. Inversement, il convient de noter l'absence d'ancrage dans les Hautes-Pyrénées voisines, mais ce qui peut se comprendre, alors que c'était quand même là aussi pas très loin. Bon, certes, Anglette, c'est pas à côté des Hautes-Pyrénées en tant que telles, mais ce qui peut expliquer cette absence d'ancrage dans les Hautes-Pyrénées, c'était le dynamisme de l'une des congrégations qui figurait dans le tableau initial, la congrégation de Saint-Joseph de Cantaous, qui devait subvenir largement aux besoins scolaires congréganistes du diocèse. Donc avant tout, un ancrage dans le sud du diocèse, dans le sud aquitain, mais malgré cet ancrage, donc vous voyez le nombre des écoles est assez élevé, 195 écoles, et si on regarde les effectifs des congrégations à supérieur général en 1878, alors les chiffres ne sont pas de moi mais de Claude Langlois, hein, donc je fais confiance à Claude Langlois de ce point de vue-là, certes domine incontestablement les filles de la croix avec 2500 religieuses, mais en fait les filles de la croix avaient un double recrutement, si j'ose dire, un recrutement poitevin et puis le recrutement pyrénéen, et donc la première congrégation à part les filles de la croix indubitablement dans la région, c'est les servantes de Marie, avec un recrutement alors j'ai pas encore examiné dans le détail les registres d'entrée des religieuses, mais une immense majorité de religieuses issues du diocèse de Bayonne lui-même. Par exemple, alors qu'il y avait quelques maisons dans le diocèse de La Rochelle, je n'ai trouvé qu'une seule vocation pour l'instant dans le diocèse de La Rochelle. Donc là, on voit vraiment ce qui joue avant tout, c'est le vivier bas-pyrénéen, basco-béarnais, pour l'essor de la congrégation. Quelles sont les forces qui expliquent l'enracinement local, la présence de cette congrégation à l'échelle locale? C'est tout d'abord l'accueil bienveillant des autorités. Vous en avez un petit cas ici, dans une zone très périphérique, mais que je connais bien, Cherbonnière, donc ce que je vous ai caractérisé comme la Petite Chine, donc c'est une région, on va dire, non chrétienne, déchristianisée de la Saintonge. Et là, c'est la lettre qu'envoie le curé à son évêque pour expliquer comment arrivent les religieuses dans la paroisse. Et donc le père Sestac m'a heureusement donné une supérieure d'un aplomb rare, donc quelqu'un qui devait réussir à en imposer. Et l'élément décisif, c'est la visite chez les conseillers, c'est-à-dire les conseillers municipaux, donc il faut convaincre le conseil municipal. Et ensuite, vous voyez un arrangement comme on en trouve très souvent au XIXe siècle, alors que c'est totalement illégal, si j'ose dire. C'est-à-dire que le curé quitte le presbytère est prêté aux religieuses pour une affectation scolaire, ce qui est normalement totalement interdit. Mais entre l'esprit de la loi et l'application, il y a toujours une grande marge. Et ce soutien municipal est souvent décisif. Et on se rend compte sur les 195 écoles qu'ont dirigé les servantes de Marie, au cours de leur histoire, vous en avez plus de la moitié qui, à un moment de leur vie, ont été écoles communales. Donc, mine de rien, ça explique là aussi largement le maintien de ces écoles. Et on se rend compte, justement, lorsque le vent change, que dans certains cas, ce soutien municipal devait être décisif. Là, vous voyez, malgré tout, bien qu'il y ait eu un vent, si j'ose dire, anticlérical à partir de 1880, un appel à la laïcisation, dans les Landes et dans les Basses-Pyrénées, encore au moment de l'application des lois anticonvianistes, vous aviez une vingtaine d'écoles communales dans les Landes, qui étaient toujours dirigées par des religieuses, des servantes de Marie, et un nombre analogue dans les Basses-Pyrénées. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est surtout les autres chiffres que je vous ai proposés, c'est-à-dire qu'est-ce que deviennent les écoles de servantes de Marie une fois qu'elles n'ont plus la direction de l'école communale. Et là, vous voyez que dans les Landes, il y a deux facteurs d'explication possibles. Soit ils n'ont pas de ressources financières, soit pratiques plus tièdes, si j'ose dire. Donc les deux ont peut-être dû jouer. Mais la grande majorité des écoles anciennement publiques des servantes de Marie des Landes, lorsqu'elles sont laïcisées, doivent fermer leurs portes, mettre la clé sous la porte dans les Landes. Alors qu'inversement, dans les Basses-Pyrénées, vous voyez que toutes les paroisses se mobilisent pour garder ces religieuses. Donc ça peut s'expliquer, je pense, à la fois par la foi et par la fragilité financière des communautés locales qui ne permet pas de maintenir par des appels aux dons ces écoles. Des ecclésiastiques peuvent jouer également un rôle déterminant dans la mise en place de ces écoles. Quelques exemples. Tout simplement, par exemple, l'abbé Salfranc, alors professeur au petit séminaire d'Oloron, qui joue à plusieurs reprises un rôle déterminant dans l'établissement de certaines des écoles des servantes de Marie. Par exemple, il est natif d'une petite commune qui s'appelle Les-Attas, alors je ne garantis pas la prononciation là non plus. C'est lui qui convainc le père, donc il était natif de la paroisse, donc c'est lui qui convainc le père Sestac que la paroisse, que Les-Attas, figure parmi les premières communes à disposer d'une école des servantes de Marie. De la même manière, l'abbé Salfranc, à Bors, une autre commune, fait remplacer le curé par un natif de la paroisse, et donc un abbé qui était originaire de la paroisse, et qui avait lui-même des sœurs dans la congrégation des servantes de Marie. Et du fait de ses soutiens, si j'ose dire, familiaux, il réussit à plus facilement consolider l'œuvre des servantes de Marie, et notamment toute la famille en fait se mobilise, à la fois du curé et donc de ses religieuses, pour que l'école des servantes de Marie se maintienne dans la communauté. Donc pour les appels aux dons, la générosité, les dons en nature, c'est beaucoup plus facile de compter sur la bienfaisance de la communauté locale lorsqu'ils connaissent à la fois le curé qui est de la paroisse et des religieuses de la congrégation, qui ne sont peut-être pas dans la paroisse même, mais qui sont ailleurs au service de la congrégation. De la même manière, souvent, cette générosité des ecclésiastiques, ça transparaît à travers des dons, ça a été rappelé à plusieurs reprises. Par exemple, l'abbé Casalo, toujours natif de Les-Attas, offre sa maison en 1893 pour accueillir la congrégation. C'est un acte de générosité assez classique. Inversement, la fragilité des ressources cléricales peut nuire à l'œuvre. Donc on voit dans les écoles qui ont une brève durée de vie, soit il y a eu, dans certains cas, l'explication c'est qu'il y a eu un changement de curé et que le nouveau curé n'a pas les mêmes ressources financières que le précédent, n'a pas de richesse personnelle et du coup a beaucoup plus de mal à trouver de l'argent pour maintenir la présence conrianiste dans sa commune. C'est ce qui arrive notamment à Peyrelongue, donc c'est une des premières communes où il y a une école des Servantes de Marie, mais elle ferme dès 1856 parce que le nouveau curé n'a pas l'argent suffisant pour aider les œuvres. Surtout, le plus important, en fait, c'est les soutiens, si j'ose dire, les soutiens châtelains. Les soutiens châtelains, donc de la noblesse locale, on retrouve ça à plusieurs reprises, c'est dans pratiquement toutes les notices consacrées aux maisons, on voit toujours la bienfaisance d'une famille qui va aider à financer l'œuvre des servantes de Marie. Et on se rend compte que c'est souvent, par exemple, une des communes, enfin c'est le cas de l'une des deux écoles évoquées tout à l'heure par le professeur Agostino en Gironde, l'école de Sainte-Magne. En fait, ça s'explique parce que vous avez une comtesse, la comtesse de Carles, qui finance l'œuvre. Et une fois que la comtesse n'est plus là, c'est le maire lui-même qui va financer l'œuvre, une fois que l'école est laïcisée. C'est-à-dire que c'est lui qui va accueillir les religieuses. Donc c'est vraiment celui qui dispose du château qui va soutenir systématiquement l'œuvre catholique. Et on retrouve, et souvent, c'est aussi par les réseaux nobles qu'on peut trouver la diffusion de ces écoles des servantes de Marie. C'est le cas en particulier du début de l'implantation en Charente-Inférieure, car la première école des servantes de Marie ici implantée en Charente-Inférieure, c'est à Plassac. Plassac, c'est une toute petite commune du côté de Saint-Genis-de-Saint-Onge, c'est minuscule, mais ça dispose d'un très beau château, propriété du marquis de Dampierre. Marquis de Dampierre, un des chefs de file des légitimistes à l'échelle nationale, qui a son propre frère, le comte de Dampierre, alors souvent on se mélange dans les titres, qui est installé au Vigneau dans les Landes. Et au Vigneau dans les Landes, il y avait déjà une école des servantes de Marie, et donc c'est par ce biais-là que les servantes, enfin, que le marquis de Dampierre découvre l'existence des servantes de Marie, qui décide de faire appel à elle à Plassac dans son propre fief. Il installe dans le château, il les installe dans le château, dans une dépendance qui est aménagée en école. Donc, et à partir de là, souvent, en Saint-Onge, ça a marché comme ça, les autres écoles de la région autour de Plassac, c'est les familles nobles, vraisemblablement des connaissances du marquis de Dampierre, qui font appel aux servantes de Marie, alors qu'ils n'avaient aucune attache dans le Béarn, et parfois même contre la vie ou sans l'accord du curé. Donc c'est vraiment la priorité, c'est vraiment le soutien de la noblesse. Comment ces écoles sont perçues à l'échelle locale? On peut se rendre compte que, enfin, comment déjà les nobles perçoivent l'intérêt de ces écoles? On peut se rendre compte qu'il peut y avoir des tensions contradictoires sur les objectifs de l'école. Et là, c'est ce qui est reproduit dans l'histoire des fondations, enfin l'historique des fondations auxquelles j'avais pu avoir accès lorsque j'étais venu consulter les archives de Servantes de Marie. Là, vous voyez, la noble locale, généreuse, elle est certes généreuse, mais elle a une vision quand même passablement étroite de ce qu'on peut enseigner aux jeunes filles de la campagne. Donc elle entre en contradiction à la fois avec les servantes de Marie et également avec les revendications de l'inspection primaire du temps. Et ça me permet de faire transition justement sur la réception par l'inspection primaire, enfin les inspecteurs primaires. Et encore au début des années 1880, ça va souvent changer après quand on regarde les dossiers de montage des écoles libres, le regard des autorités inspection primaire, donc laïque, est globalement assez favorable aux servantes de Marie. Sur les cinq écoles qui sont alors présentes dans le diocèse de La Rochelle, il n'y en a qu'une qui reçoit un avis défavorable de la part de l'inspecteur primaire, mais tout simplement parce que c'est l'école de Cherbonnières que j'ai évoquée tout à l'heure, parce qu'il y a une espèce de guerre cloche-merlesque entre l'école communale laïque et l'école religieuse, mais c'est lié à la personnalité du curé et pas tant à la personnalité des servantes de Marie. Comment ça fonctionne ensuite au sein de ces écoles? Je ne reviendrai pas sur les pratiques pédagogiques, ça serait beaucoup trop long sur ces aspects-là, mais de ce que je connais des écoles des servantes de Marie dans les régions septentrionales que je connais mieux que les Basses-Pyrénées, Le père Sestac recommandait l'établissement d'une maison complètement, enfin d'un couvent complètement isolé, avec des champs cultivés autour, avec une vraie autonomie de l'établissement par rapport au monde environnant. C'était notamment, il prenait le modèle de Buglos, où ça devait correspondre sensiblement à cela. Mais dans la réalité, ce modèle d'école, si j'ose dire, indépendant, vu la dépendance à l'égard du monde châtelain, était exceptionnel. C'est très fréquent de retrouver installée l'école dans les dépendances du château. De la même manière, il faut avoir à l'esprit que c'est moins l'appartenance à la noblesse que le fait de posséder le château qui explique le soutien continu, souvent, aux servantes de Marie dans la région. Donc au final, si on cherche un petit peu à conclure, les servantes de Marie apparaissent comme certes une congrégation importante, mais avec une histoire, si j'ose dire, pas dans la norme, si j'ose dire, de la plupart des congrégations enseignantes du XIXe siècle, avec un seul élément, enfin, par rapport à celle que je connais mieux, donc de la Gironde et de la Charente inférieure, le seul élément qui distingue un petit peu, c'est le décrochage entre la naissance, si j'ose dire, par le père Sestac dans les années 1836-40, et le moment où elles se saisissent de la tâche de scolarisation. Mais elles, tout au long de leur histoire, on retrouve, enfin, l'histoire au XIXe siècle, hein, au-delà, je connais moins, on retrouve, en fait, à travers l'histoire des servantes de Marie, la plupart des scansions nationales sur le flux et le reflux, la présence congréganiste dans l'enseignement, c'est-à-dire qu'elles ont bénéficié du contexte très favorable du Second Empire, qui était le moment de leur fondation en tant que congrégation enseignante, donc elles ont bénéficié d'un double contexte favorable. Et après, on retrouve, de manière peut-être un peu moins prononcée que dans des régions plus anticléricales, les mêmes fluctuations du nombre d'établissements que dans les autres diocèses, c'est-à-dire léger recul au moment des lois Ferry, mais persistance d'une offre congréganiste éducative forte jusqu'à la veille des lois anticongréganistes, qui vont vraiment tourner une page de l'histoire de la congrégation et inviter à une réorientation plus poussée, notamment vers les établissements à l'international. Voilà. Donc je vous remercie.
Les Servantes de Marie, une congrégation enseignante majeure du sud-ouest aquitain au XIXe siècle, vous venez de suivre l'intervention de Nicolas Champ, maître de conférence de l'Université Bordeaux-Montaigne. Société, religion et charité au XIXe siècle. Colloque international organisé à l'occasion de la béatification de l'abbé Louis-Édouard Sestac 1801-1868 par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et la ville d'Anglette. 15, 16 et 17 octobre 2015 à Notre-Dame du Refuge, Anglette.